Pour ce nouveau podcast Capitaine, nous partons à la rencontre de Cédric Dugardin, manager de crise et ancien patron de Presstalis en 2020. À l'époque, la France est en plein Covid et le distributeur de presse au bord du dépôt de bilan. Alors que la presse joue un rôle essentiel dans toute démocratie, son rôle est accru en période de crise, notamment sanitaire. Cédric Dugardin revient pour Mayday sur cette restructuration majeure où s'entremêlent l'État français, les syndicats, les organes de la procédure, le CIRI et bien sûr l'ensemble du secteur de la presse spécialisée. Immersion en pleine tempête. Bonjour Cédric Dugardin.
Bonjour Cyprien.
Alors vous êtes arrivé à la tête de Presstalis en 2020. Pour rappel, Presstalis est une entreprise spécialisée dans la distribution de titres de presse. Elle porte à l'époque une dette de 560 millions d'euros. Elle est leader sur son marché, voire en situation de quasi-monopole. Pourtant, lorsque vous en prenez la direction, l'entreprise vit une pleine crise. Racontez-nous.
Pour comprendre la crise de Presstalis, il faut remonter assez loin dans l'histoire, juste après la Seconde Guerre mondiale. Presstalis a traversé de très nombreuses crises au cours des 20 dernières années. Quand j'arrive à la tête de Presstalis, mi-février 2020, c'est peu de dire que l'entreprise est en crise. Il lui reste entre 1 à 3 semaines de trésorerie. Les actionnaires ne s'entendent plus. L'État en a assez de financer les multiples plans de restructuration d'entreprise. Et effectivement, on peut aussi dire que les 1000 salariés restants sont un petit peu démoralisés. Donc pourquoi cette situation ? Effectivement, Presstalis est numéro 1 de la distribution de la presse devant les MLP avec 70% de parts de marché, 100% sur les quotidiens nationaux, environ 60% sur les magazines. Presstalis, c'est aussi un ex-monstre tentaculaire, même s'il a réduit, un héritage du passé, des années et des années de mauvaise gestion, des pertes abyssales qui se sont accumulées au cours des années. Un dernier plan de restructuration en 2018 avec une conciliation qui a donné lieu à un début de redressement, malheureusement qui ne s'est pas concrétisé à la fin, avec ce qui était déjà à l'époque le plan de la dernière chance. Donc quand j'arrive, je suis le troisième dirigeant en 6 mois, tous les partenaires, toutes les parties prenantes sont un petit peu à bout sur ce dossier et en fait je viens pour le plan de la dernière chance, on va dire. Voilà.
On est à l'époque pleine crise sanitaire. L'information est toujours un enjeu dans une démocratie, mais sans doute encore plus dans ce genre d'événements. Vous avez indiqué que l'État avait déjà participé à plusieurs restructurations et, entre guillemets, on avait un petit peu marre. Est-ce que malgré tout, à ce moment-là, vous attendez, du fait de cette crise sanitaire, un soutien de l'État pour que les titres de quotidien puissent continuer d'être distribués en France ?
Alors, je suis arrivé juste avant le premier confinement. J'ai eu le temps de faire connaissance avec mes équipes et de découvrir l'entreprise avant que tout le monde disparaisse. La presse est un secteur stratégique, surtout les quotidiens. Pour l'État, c'est un enjeu important que l'information de politique générale, on va dire, soit distribuée partout en France. Tous les 32 000 diffuseurs de presse, où ils doivent être un peu moins maintenant, sont distribués en quotidien tous les matins avant 7 heures. C'est une mécanique bien huilée et très onéreuse. Donc ça, c'est le premier enjeu. C'est vrai que le confinement a rajouté un deuxième enjeu, c'est que la presse est devenue immédiatement un enjeu stratégique puisqu'il fallait que les gens puissent continuer à avoir accès à l'information. De toute façon, la restructuration de Presstalis ne pouvait pas se faire sans le soutien de l'État. La presse est un secteur en crise depuis des années. Les éditeurs de presse ne sont pas franchement des milliardaires, même s'ils sont souvent soutenus par des milliardaires. Les journaux, les titres de presse, pas richissimes. Donc la restructuration de Presstalis ne pouvait se faire qu'avec le soutien de l'État. Alors ensuite, le confinement a rajouté une situation particulière. Pour être très précis, on devait déposer la déclaration de cessation de paiement le 15 mars. Donc 3 jours après le début du confinement, il est sûr que le samedi soir, on m'a annoncé que je ne déposerais pas le mardi. Et j'ai dit très bien, j'ai 3 jours de trésor. Donc si je n'ai pas de trésor mardi matin, je dépose la déclaration de cessation de paiement, c'est mon devoir. Et donc le mardi matin à 7h, on a reçu un mail avec une jolie lettre signée Bruno Le Maire en PDF qui nous donnait un VDES de 18 millions d'euros. Ce qui nous a permis d'aller au tribunal, alors en visioconférence bien entendu, et d'annoncer au président du tribunal de commerce que nous pouvions retirer la DCP puisque nous avions les financements pour tenir environ 1 mois, 2 mois et continuer l'activité.
Alors j'allais vous demander de combien de temps vous disposiez, donc vous m'avez répondu 3 jours, puis 1 à 2 mois avec le soutien de Bercy.
Alors Dans les restructurations, le cash, c'est vraiment la clé. Il y a deux éléments vraiment clés en restructuration, le cash et le temps. Quand je suis arrivé à la tête de Prestalis, on avait entre 1 à 3 semaines de trésorerie. C'est dans les rapports des conseillers financiers. Tout le monde le savait. C'est sûr que le 15 mars, il nous restait vraiment 2-3 jours. Je pense qu'on ne pouvait pas faire les salaires du mois de mars. Donc les 18 millions du premier FDES qui nous ont été accordés ce 15 mars nous ont permis de financer plusieurs choses. D'abord de payer les salaires du mois de mars, ensuite de continuer à payer les fournisseurs stratégiques, c'est-à-dire essentiellement les transporteurs et les sous-traitants qui s'occupent du tri des journaux dans certains endroits. Si cela s'arrête de travailler, c'est sûr qu'il n'y a plus de distribution de la presse. En revanche, la gestion du cash au cours de ces 3 mois qui se sont écoulés entre le 15 mars, les 2 mois qui se sont écoulés entre le 15 mars et le 15 mai, date où on a réellement déposé la DCP, la clé, ça a été la gestion essentiellement des éditeurs. Tous les matins, avec le directeur financier, on faisait la liste des éditeurs qu'on allait payer dans la journée.
Dans ce genre de période, quand on arrive à la tête d'une structure avec beaucoup d'emplois, une dette importante et donc vous évoquez quelques jours de trésorerie, quelques semaines en tout cas, vous avez dit on ne savait pas si on ferait les salaires du mois de mars. Quels sont les réflexes à avoir pour toute entreprise quand on arrive dans ce genre de situation ?
Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment deux clés dans une entreprise en restructuration, surtout quand la situation est vraiment grave, c'est le cash et le temps. Donc la première chose à faire quand on arrive dans une entreprise comme ça, c'est d'abord de s'inquiéter de la trésorerie. Un célèbre associé d'un grand cabinet dans cet immeuble dit qu'il faut s'asseoir le cul sur la caisse. Je trouve que l'expression est extrêmement bien vue. C'est effectivement ce qu'il faut faire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement... On met en place des comités ou on met en place une surveillance vraiment très très stricte du cash. Alors, par exemple, je suis dans une entreprise, en ce moment, c'est moi qui paye toutes les factures, toutes les semaines, qui décide de qui est payé, qui n'est pas payé. C'est la seule solution.
Et on paye que les fournisseurs stratégiques ?
Alors on paye plusieurs choses. D'abord, on paye effectivement les fournisseurs stratégiques, donc ça dépend. Chez Prestalis, c'était les transporteurs. En plus, ils ont un privilège loi Guesso, donc on doit les payer, sinon ils peuvent arrêter de travailler. Il y a des sous-traitants stratégiques. Par exemple, là où je suis, c'est les fournisseurs de matières premières. Si on n'a pas de matières premières, l'usine ne tourne pas. Si l'usine ne tourne pas, je n'ai pas de produit. Si je n'ai pas de produit, je n'ai pas de cash. Voilà. Ensuite, il y a les salaires, bien entendu. Ensuite, j'essaye aussi souvent de payer les sous-traitants individuels, c'est-à-dire tous les freelances, les prestataires, pour qui leur facture est un salaire. C'est un peu comme des salariés, il faut quand même les favoriser. Et après, on joue sur les retards. C'est-à-dire qu'on fait tourner, on essaye d'avoir un retard moyen de X dizaines de jours. Et puis on paye aussi, ça il ne faut pas le dire parce que généralement ça encourage les gens à protester, mais on paye les gens qui crient le plus fort aussi. Parce que souvent les équipes comptables en ont ras-le-bol d'être appelées 18 fois par jour. Donc les emmerdeurs, on les paye assez vite quand ils n'ont pas des montants bien entendu en compte trop élevés. Donc ça c'est vraiment la première clé. La deuxième clé, c'est quand on arrive dans une entreprise, c'est d'identifier immédiatement les points forts et les points faibles. Et là je parle en termes de ressources humaines. La règle est assez simple dans une entreprise. Alors elle est évoquée de différentes façons par différents types de personnes. Vous avez 60% qui suivent, vous avez 20% de boulets et vous avez 20% de leaders. Donc il faut déjà identifier les leaders sur lesquels vous pourrez vous appuyer, ceux qui ont envie de jouer, ceux qui sont capables de jouer. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Il faut le faire assez vite. Et puis ensuite, il faut aussi mettre en place un dispositif de communication parce qu'une restructuration, c'est extrêmement prenant. Pour les salariés, c'est très inquiétant, c'est très angoissant. Donc il faut communiquer, il faut rassurer, il faut dire la vérité. Mais tout ça, il faut le mettre en place. Et ensuite, il faut aussi s'assurer, bien entendu, qu'on a les bonnes équipes, c'est-à-dire qu'on est entouré des bons conseils. Souvent, quand j'arrive dans une entreprise, les conseils sont déjà en place, mais il arrive que non, et qu'il faille compléter les trous. Et ça, c'est aussi un point vraiment clé.
Quand vous arrivez chez Prestalis, les difficultés sont connues. Dans la presse, elles sont publiques. J'ai pu lire que certains appellent déjà, enfin appellent pas de leur vœu, pas du tout, mais en tout cas anticipent une liquidation du distributeur. Vous évoquez du coup le climat social, enfin vous évoquez la nécessité de s'emparer en tout cas de la question sociale et de communiquer avec eux. Dans quel état, dans quel climat social est Prestalis quand vous arrivez aux manettes ?
Prestalis était une entreprise, enfin... France Messagerie est toujours par certains côtés une entreprise atypique, très atypique. Il faut savoir que Prestalis, c'était le monopole CGT du livre, avec les imprimeries. Hein. C'est les deux bastions, Prestalis et les imprimeries. On va dire que sur les 1000 salariés, je devais avoir à peu près 800 inscrits à la CGT, dont tous les centres de distribution. Donc ça, c'est une première particularité, un syndicat ultra dominant et ultra dominant depuis 70 ans. Pour ceux qui se souviennent, les plus vieux, la CGT du Livre était le service d'ordre de la CGT et du PCF pendant des dizaines d'années. Donc c'est vraiment une entreprise extrêmement particulière. Le climat social, paradoxalement, n'était pas mauvais. Les gens étaient inquiets parce que les gens voyaient bien que la situation se tendait de plus en plus et que les actionnaires, surtout les éditeurs, c'est très paradoxal aussi, vos actionnaires sont vos clients. Donc le conflit d'intérêts, il est quand même caractérisé tout au long de l'année. C'est-à-dire que celui qui crie le plus fort, qui a les plus gros volumes, il a des conditions que les autres n'ont pas. Aussi une difficulté chez Prestalis. Donc les gens sentaient bien que la situation était très tendue, mais paradoxalement, les syndicats, les premières fois que je les ai rencontrés, n'étaient pas inquiets. Pourquoi ? Parce que depuis des dizaines d'années, l'État payait. Crise, chèque. Crise, chèque. Grève, chèque. Simple. Donc quand je suis arrivé, il y en a qui m'ont dit, alors c'était pas la CGT, je crois que c'était la CGC, qui m'ont dit de toute façon, c'est pas grave, on va encore avoir un chèque. En gros, papa passera payer. Mais je leur ai dit, non les gars, c'est fini ça. C'est fini. Et ils ont mis un certain temps à comprendre. Les premiers qui ont compris que c'était terminé, c'était la CGT, très paradoxalement. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas compris jusqu'au 15 mai. La CGT Marseille, la CGT Lyon, jusqu'au 15 mai, ils ont pensé qu'on allait recevoir le chèque miracle qui allait les sauver.
Du coup, à ce stade, vous envisagez un plan de continuation ou vous envisagez immédiatement un plan de cession ?
Une des facilités sur le dossier Prestalis, c'est que quand je suis arrivé, tout était écrit. J'ai vraiment pas eu besoin d'inventer le plan, ça faisait des mois que le plan tournait. Il y avait deux plans. Il y avait ce que les actionnaires côté magazine appelaient le plan In Bonis, qui permettait une restructuration de Prestalis sans dépôt de bilan. Et il y avait le plan dit liquidatif, qui passait par un dépôt de bilan et essentiellement la liquidation du niveau 2. Alors ce qu'on appelle le niveau 2 dans la distribution de la presse, ce sont les grossistes de province qui font la répartition avant d'arriver chez les distributeurs de presse. Le niveau 1 sont les deux entrepôts centraux de Bobigny et de Bonneuil qui font le premier tri en provenance des imprimeries. Donc c'était la liquidation du niveau 2, une restructuration très forte du siège et du niveau 1, et avec un financement de l'État qui permettait de créer une nouvelle entité. Le plan In Bonis, certains actionnaires, notamment les magazines, s'accrochaient à ce plan. Pourquoi ? Parce qu'il permettait de récupérer leurs créances. Quand je suis arrivé, environ 150 millions de créances fournisseurs vis-à-vis des éditeurs, dont un très très gros montant vis-à-vis du premier éditeur français qui était Prisma Press. Donc les gros éditeurs de magazines soutenaient ce plan In Bonis qui permettait de continuer l'activité et de ne pas perdre leurs créances. Toutefois, ce plan In Bonis nécessitait un investissement de la part de l'État français d'environ 180 millions d'euros. Moi, avant même que j'arrive, Bercy m'a dit « même pas en rêve ».
Oui, l'État français qui était déjà créancier de Prestalis.
Déjà largement créancier puisqu'ils avaient financé toutes les restructurations et notamment celle de 2018. Donc là, le message a été clair. J'ai été convoqué un jour à Matignon avec les gens du CIRI et on m'a dit « fix it or kill it ». C'est la dernière, on paye, mais c'est la dernière. Donc le plan In Bonis, quand je suis arrivé, il n'existait déjà que dans les rêves de certains éditeurs et dans les rêves de certains salariés. Le deuxième plan, qui passait par une restructuration lourde, était également financé par l'État, mais il avait un coût d'environ 120 à 130 millions. Et l'État et les quotidiens et une partie des éditeurs de magazines étaient prêts à aller vers ce plan. Pour moi, la chose était claire. Néanmoins, quand je suis arrivé dans l'entreprise, beaucoup de gens continuaient à travailler sur le plan In Bonis. Et notamment, toutes les équipes étaient en train d'essayer de voir comment on pouvait vendre des bouts, etc. Mon premier travail, déjà, ça a été de faire atterrir une partie du COMEX en leur disant « ce plan n'existe pas, arrêtez de travailler sur ces hypothèses et concentrons-nous sur le plan liquidatif ». Plan liquidatif, il y avait deux options. Il y avait l'option avec reprise, celle que finalement on a mise en œuvre, et il y avait l'option sans reprise, c'était crash complet avec liquidation des actifs par petits bouts pour assurer quand même la distribution de la presse, mais avec aucune reprise de salariés, aucune reprise du cœur de l'entreprise Prestalis.
Le 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris autorise finalement la cession de Prestalis au profit de France Messagerie, société créée pour la reprise de Prestalis. France Messagerie est portée par la coopérative de distribution des quotidiens qui possédait déjà 25% de Prestalis. La majorité des salariés sont licenciés. Plusieurs magazines quittent Prestalis et vont chez le concurrent de Prestalis, les messageries lyonnaises de presse. Vous perdez alors environ, d'après ce que j'ai pu lire, 40% de votre chiffre d'affaires. Et dans le cadre de ce projet de reprise, vous restez, ou plutôt vous prenez la tête du repreneur France Messagerie. Alors déjà, pourriez-vous nous présenter le projet de retournement que portait France Messagerie pour aller à la rentabilité, puisqu'on avait compris que l'État prêterait une dernière fois et que maintenant il fallait que l'entreprise soit rentable.
Alors, avant d'arriver au plan CDQ, il faut faire un petit peu d'histoire. Tout au long du mois de mars et du mois d'avril, les dissensions se sont faites de plus en plus importantes entre la CDM, la coopérative des magazines, 76% de Presstalis, et la CDQ, coopérative des quotidiens, qui avait 24 ou 25. Donc divergence de plus en plus forte, alimentée par les MLP en sous-main, pour récupérer l'essentiel de la distribution des magazines, bien entendu. Plus, rajouter à ça des querelles de personnes, tout un historique, etc. C'était extrêmement compliqué à gérer. Donc, si vous voulez, les dissensions se sont faites de plus en plus importantes, les MLP sont rentrés dans le jeu, sont sortis parce que finalement l'État et nous, le management, avons considéré que la solution MLP était complètement suicidaire et qu'elle revenait en fait à jeter à la poubelle la distribution des quotidiens. Début mai, c'était le 7 mai je crois, il y a une réunion de la dernière chance qui se passe au CIRI sans nous. Entre les quotidiens, les magazines et le CIRI.
Sans vous donc ?
Sans nous, oui. On avait dit que ça ne sert à rien qu'on vienne avec nos avocats. Il y avait la mandataire, Hélène Bourboulot, mais nos avocats Racine et nos conseils 8, on avait décidé de ne pas y aller. On dit ça ne sert à rien, il ne va rien se passer, on reste à la maison, ça ne sert à rien, téléphonez-nous quand c'est fini. Et effectivement, quand c'est fini, Louis-Marguerite m'a téléphoné pour me dire ça a servi à rien, vous aviez raison. Et donc, constat d'échec le 7 mai, sachant qu'on devait déposer la DCP le 15 mai. Donc le 7 mai, pas de solution de reprise. Donc le lendemain, on rencontre la coopérative des quotidiens et on décide de monter un plan de reprise entre nous pendant le week-end. Donc on a monté le plan de reprise, alors on n'a rien inventé, hein. C'était quasiment la succession, la suite de tous les plans qu'on avait montés. C'était un plan plus restreint. On devait reprendre 370 personnes dans le plan précédent. Avec le plan CDQ, on reprend que 260, c'est-à-dire qu'on liquide tous les grossistes de province. 500 personnes. Donc on monte ce plan pendant le week-end. On a plusieurs réunions, conseil d'administration et autres, qui arrivent sur des constats d'échec, finalement. Donc entre les noms d'oiseaux et les suspensions de séances, à la fin, les magazines disent « Ok, faites ce que vous voulez. » Nous, on se retire. Et donc, on se retrouve avec un plan restreint, soutenu par Bercy, financé donc par Bercy. Et on peut arriver au tribunal de commerce, virtuellement bien sûr, le 15 mai matin, pour annoncer une liquidation judiciaire sans poursuite d'activité pour les SAD, donc tout le réseau des grossistes de province, et une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité et plan de reprise pour Presstalis. Voilà, donc ça, ça a été assez épique. Le plan, il est en fait assez simple. Donc on liquide le niveau 2, qui était un foyer de perte énorme, hein. Il perdait 20 millions par an, quoi qu'on fasse. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un salarié chez un grossiste de province qui est payé 1200 euros net par mois, chez nous, ils étaient à 2005. Donc, c'est juste pas possible de transporter des cartons de journaux à 2005. Et d'ailleurs, quand on a proposé des reprises de salariés chez des grossistes de province, la CGT était vent debout parce qu'ils considéraient qu'on bradait le statut des gens, etc. Enfin, on disait, oui, au moins, on leur propose un emploi. On en a quand même reclassé plus d'une centaine. Donc, on liquide le niveau 2. On a un plan, et c'est toute la subtilité de ce plan. Je vous ai dit que l'État ne voulait plus payer. Donc, le message, c'était la dernière restructuration de Presstalis. Donc, on paye le PSE, mais vous provisionnez un équivalent PSE pour tous les salariés conservés au cas où le marché continue à dégringoler et que la situation continue à se dégrader, le PSE final soit financé. Donc on garde 270 salariés. Sur 2 ans, on en fait partir une trentaine, aussi bien à Bobigny qu'au siège.
260 sur combien ?
Sur 1000. Et à la fin 2021, on se retrouve avec une structure viable à environ 250-260 salariés, avec sur des fiducies, un financement abondé par les éditeurs, qui permet, au cas où, de financer la liquidation de l'entreprise. C'était vraiment le deal avec Bercy, c'est la dernière, et on met l'argent de côté pour être sûr que, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas à remettre de l'argent au pot.
Dans quel climat social se passe cette restructuration ? On a évoqué le climat social quand vous êtes arrivé. Là, vous avez indiqué qu'il y avait certaines propositions de reclassement qui n'avaient pas été appréciées, même si certaines ont été saisies. Dans quel climat social se passe cette restructuration qui est quand même assez lourde, puisqu'on parle du licenciement de la majorité des salariés ?
Encore une fois, c'était une restructuration très paradoxale, parce que la ligne de fracture ne s'est pas du tout située où on le pensait. Alors bien entendu, la CGC a collaboré, la CFDT aussi. La CGT, en revanche, a été très ambivalente, puisqu'on avait en fait 2 CGT dans l'entreprise. On avait la CGT Bobigny plus siège, pourtant réputée comme étant les plus dures. Et on avait la CGT SAD, donc la province, qui était totalement vent debout contre l'opération. Pour vous donner une idée, j'avais réussi à convaincre Matignon et Bercy qu'on pouvait garder une centaine de personnes dans les SAD en réduisant les effectifs et en se concentrant sur Lyon, Marseille et Bordeaux. La CGT voulait 160. Non, 200. Il voulait 220. J'ai dit, écoutez, non, c'est 100 ou c'est rien. Et on a fini à arriver à 160. Je lui ai dit, écoutez, vous signez à 160. Moi, je vais à Matignon et j'obtiens les 160. Et ils ont dit, non, c'est 220. Moi, je dis, OK, c'est zéro. Et le 15 mai matin, quand on a annoncé la liquidation sans poursuite d'activité, ils n'y ont pas cru. Je dis, mais je vous avais prévenu. C'était 160 ou zéro. Bah, c'est zéro. Bravo, les gars. La CGT Siège et Bobigny, eux, dès le début, ils ont accepté de jouer le jeu. Je leur ai dit la vérité, enfin, mon principe, c'est de toujours dire la vérité aux gens. Ça sert à rien de mentir, vous faites toujours rattraper par la patrouille. Donc on ne dit pas toujours tout, mais en revanche, on ne ment pas. Depuis le début, je leur ai dit, cette restructuration sera la dernière, ça va être sanglant. Je vous promets deux choses. Au 30 juin, on ne sera pas 1000, mais je ferai tout ce qu'on peut pour qu'on ne soit pas zéro. Et la CGT Bobigny a joué le jeu. Ils ont signé les accords, ce qui est absolument incroyable, la CGT qui signe un PSE. Ils ont signé l'accord de réduction des effectifs et ils ont joué le jeu. C'est même eux qui ont participé à, je dirais, à la au dimensionnement de Bobigny post-PSE avec les restructurations, les réductions d'effectifs en fonction des classes d'âge, etc. La CGT province, pas du tout. Eux, ils se sont mis immédiatement en porte-à-faux. Quand on a annoncé la liquidation, ils se sont mis en grève. Alors, vous me direz, une grève dans une entreprise en liquidation, c'est pas super important. En revanche, ils ont bloqué Lyon et Marseille. Parce qu'ils terrorisaient tout le monde, y compris les grossistes qui étaient capables de reprendre la distribution, ils ont bloqué Lyon et Marseille pendant presque deux mois. Donc ça a été très très ambivalent et pas du tout là où on l'attendait.
Et donc la CGT n'avait pas de position unique sur l'ensemble de l'entreprise ?
Non, pas du tout. Et le jour où on a signé les accords, c'était assez drôle. Il y a le délégué central qui lui était pro-SAD, qui part juste avant la signature. Donc tout le monde signe, je signe, la CGT Bobigny signe, la CGT Siège signe, et puis le DSC Bobigny, qui était le chef de la CGT du Livre local, me dit « c'est bon, monsieur le Président, c'est fini ». Je dis « non, c'est pas fini, il y a le DSC qui n'a pas signé ». Alors il se retourne vers le DRH, il dit « c'est vrai ça ?». Le DRH dit « bah oui, il n'a pas signé, c'est pas valable ».
DRH je suis, DSC ?
Délégué central, délégué syndical central. Donc on lui dit « bah non, le DSC n'a pas signé, c'est pas valable ». Et le gars me regarde, il consulte ses deux acolytes hein, et ils disent « si on vous le ramène à 14h, c'est bon ?» Ah, je lui dis « oui, moi j'ai toute la journée, on signe quand vous voulez ». À 14h, le gars est venu, pas ouvert la bouche, il a signé, il est reparti immédiatement, encadré par trois autres gars.
De la CGT.
Oui. C'était, je vous dis, c'est pour vous donner le climat. Et alors après, il y a les gens de Lyon qui sont venus à Bobigny pour déclencher une grève de solidarité. Et en fait, l'équipe CGT de Bobigny est allée à la sortie du centre de traitement et leur a dit « maintenant, vous vous cassez, vous n'avez pas signé les accords, le président vous avait prévenu, vous pouvez partir. Si vous rentrez dans Bobigny, on vous démonte. » Donc on a eu une journée de grève au siège, un vendredi de confinement, on ne s'en est pas rendu compte, et on a eu deux demi-journées de grève à Bobigny sur toute la durée du truc. Donc en fait, c'était une restructuration très particulière avec des lignes de fracture que vous attendez pas, là où vous attendez pas, et un dialogue social qui finalement a été plutôt bon jusqu'au bout.
Et avec le soutien assez fort de certains salariés du coup.
Oui, oui. Enfin, c'est très paradoxal. Et beaucoup de gens m'ont remercié d'abord d'avoir dit, de leur avoir toujours dit la vérité depuis le début. Bon, et puis après, le plan social a été généreux. L'État a fait ce qu'il fallait. Enfin, il y avait beaucoup en plus de gens qui sont partis en départ d'âge parce qu'il y a grande ancienneté dans cette entreprise, donc on ne peut pas vraiment parler d'un drame social.
Quand donc vous faites ce plan, vous envisagez du coup une diminution du chiffre d'affaires. Une question assez générale, est-ce que vous pensez que quand on porte un projet de reprise, il y a forcément ce qu'on pourrait appeler une décroissance rentable, c'est-à-dire une quête de rentabilité qui passe par une décroissance, passe par la réduction d'une partie du chiffre d'affaires qui ne serait pas rentable? Ou est-ce que là, ça s'est imposé à vous pour les circonstances que vous évoquiez, mais que vous auriez pu vous passer de cette décroissance?
Deux cas. Prestalis, d'abord, cas particulier, effectivement, un marché en décroissance de 10% par an. Effectivement, on a perdu la moitié du chiffre d'affaires, hein, ce qu'on appelait la VMF, les ventes montant fort. On est passé d'un milliard à moins de 500 millions du jour au lendemain avec les départs d'éditeurs. Après, il y a une chose qui est assez frappante dans les projets de restructuration que j'ai pu mener. Souvent, l'entreprise est au bord de la mort. Pourquoi ? Parce qu'elle a engagé une croissance non rentable. Donc la première chose à faire, c'est de chercher la rentabilité et le cash. Donc ce que je dis toujours, c'est pas grave de perdre des clients, c'est pas grave de fermer des magasins. Si c'est des cash burners, ça sert à rien de les garder. Donc oui, généralement dans une restructuration, on ne cherche pas la croissance, on cherche la rentabilité et le cash. Je vous donne un exemple qui maintenant est dans le domaine public, c'était Conforama. Conforama a été porté par des grands actionnaires pendant des années, qu'ils soient français ou internationaux, qui ont poussé les équipes dirigeantes à faire la course à la croissance. Mais pour arriver à du n'importe quoi, à des magasins ouverts, non rentables. mais non rentable sur 25 ans, avec des loyers hallucinants, mais des positions stratégiques, de la croissance, être le premier, etc. Quand j'ai pris la tête de Conforama, résultat, 62 magasins à fermer sur 200, mais 62 qui n'avaient aucune perspective de rentabilité dans les 3 prochains siècles. C'est un désastre total. Après, expliquez ça aux salariés qui vous disent « mais on ne nous a jamais dit ça, on nous a menti ». Je dis « oui, on vous a menti ». Après, si vous êtes assez bête pour vous accepter qu'on vous mente pendant 10 ans, c'est votre problème. Donc ça, c'est un vrai drame. Et les cas, j'en ai plein. Donc oui, la première chose, c'est aller chercher le cash et la rentabilité. Il vaut mieux être divisé par 2 avec une marge qui augmente en pourcentage et en valeur absolue plutôt que de continuer à porter des poids morts. Après, effectivement, une entreprise sans croissance est condamnée. Donc si vous développez un plan de reprise et si vous avez une perspective, si vous n'avez pas de perspective de croissance ou d'amélioration de la marge, de la rentabilité, votre truc est mort-né. Encore une fois, Prestalis, un cas particulier, entreprise stratégique, marché en décroissance, mais le projet qu'on a porté avec France Messagerie, il était rentable et d'après ce que m'en a dit mon successeur, il est toujours rentable.
On reviendra sur la rentabilité de France Messagerie. Comment vous gérez à ce moment-là la confiance des éditeurs, dont une partie du coup importante est partie chez le concurrent? Comment vous gardez ceux qui restent?
Assez simplement, déjà, on a gardé toute la coopérative des quotidiens, puisque c'est eux qui portaient le projet et que France Messagerie, Prestalis France Messagerie, est le seul en France qui peut distribuer des quotidiens tous les matins avant 7h, partout dans tous les points de vente. Voilà. Sinon après il faut aller chercher la PQR, la presse quotidienne régionale, qui est très jalouse de son territoire, qui est sur des circuits complètement différents et qui dans la plupart des cas ne veut pas travailler avec les quotidiens nationaux. Donc déjà on a gardé tout cela. Et il ne faut pas oublier que tous ces gens-là ont aussi des magazines. Par exemple Le Monde à Télérama, par exemple L'Équipe à 2-3 magazines de foot, par exemple Le Figaro à son Figaro magazine, etc. Donc on a récupéré de facto quand même un bon chiffre d'affaires. On a aussi gardé ce qu'on appelle les encyclopédies. Donc tout ce qui est vente de magazines avec des jouets, des goodies, etc. Pourquoi on les a gardés? Parce qu'on a réussi à les convaincre, et ça je les ai vus plusieurs fois pendant la restructuration, on a réussi à les convaincre qu'on était les meilleurs et qu'on pouvait leur proposer les meilleurs prix et que ça serait idiot d'aller voir les MLP. Et ils nous ont quasiment tous suivis. Quand je dis quasiment, on a gardé 95% du chiffre d'affaires de ce qu'on appelle la partie encyclopédie, très important pour nous. Même s'ils ont pris une bonne ardoise pendant la restructuration, mais j'ai passé beaucoup de temps avec eux. On leur a retravaillé les barèmes, on leur a retravaillé, etc. Et donc ça a bien marché. Ensuite, chez les magazines, la coopérative des magazines, c'était un monstre assez protéiforme. 284 éditeurs qui vont de Prisma Presse, numéro 1 européen de la presse, à des tout petits magazines qui sont trimestriels, semestriels, vendus à 300 exemplaires. Mais voilà, donc vous devez gérer tout ça. Donc on a réussi à garder certains qui étaient fidèles, qui nous aimaient bien. On en a perdu beaucoup aussi. Et puis surtout, on a quand même aussi ajusté nos barèmes magazines pour les aligner sur ceux des MLP. En fait, avant, les barèmes, c'était une vaste boîte noire. Là, on a vraiment fait des barèmes, encyclo, quotidien, magazine, et on s'est aligné sur les MLP. Donc, on a réussi à garder quand même des gens qui finalement nous aimaient bien, avec qui on avait eu des bonnes relations pendant la restructuration. Et puis, on a perdu ceux qui ne nous aimaient vraiment pas, notamment quelques-uns qui nous ont agoni d'injures dans les journaux et à la télévision pendant la restructuration. Et puis, il y en a aussi qui ont fait une voie moyenne. Prisma, par exemple, nous a laissé quelques titres, on nous en a enlevé pas mal d'autres. Bauer aussi. Voilà, certains éditeurs ont joué les deux pour voir où ça se passait le mieux. Donc on a réussi à garder une part de marché d'environ 30% sur les mags et 100% sur les quotidiens et quasiment 95% sur les encyclopédies.
Alors vous nous avez dit une entreprise sans croissance est mort-née. Vous nous avez dit aussi que le marché de la distribution de titres papier perdait 10% d'activité chaque année. Donc on peut penser quand même que France Messagerie maintenant est sur un marché en décroissance. Et vous nous avez dit aussi que France Messagerie n'était pas mort-née et a priori était rentable. Comme tout ça peut paraître un petit peu contradictoire, quelles sont pour vous les perspectives? Comment France Messagerie peut acquérir et maintenir une rentabilité sur un marché en décroissance?
Alors, je pense que le mieux placé pour répondre à ça, c'est mon successeur, Sandro Martin. C'est lui qui la gère depuis 2 ans, depuis que je suis parti. Moi, je peux juste vous parler du plan de continuation. On a fait un plan de continuation. On a redimensionné l'entreprise en termes de coûts et en termes de chiffre d'affaires et de revenus, avec une grande prudence au niveau des revenus et une grande agressivité au niveau des coûts. Ce qui fait qu'on a réussi à dimensionner un compte de résultat qui passait. Il y a plus de chiffre d'affaires que ce qu'on avait prévu, il y a moins de coûts. Voilà. La gestion a changé, la philosophie de l'entreprise a changé, etc. Donc, effectivement, le marché est en décroissance. Néanmoins, n'oubliez pas que c'est un marché régulé, la presse. Il y a des aides, il y a des aides à la distribution, il y a des aides pour les dom-toms, il y a des, etc. Donc, ce n'est pas une entreprise normale sur un marché normal, c'est une entreprise maintenant normale sur un marché régulé.
Vous êtes arrivé chez Prestalis pour restructurer Prestalis. Vous avez quitté Prestalis lorsque l'entreprise était en plan. Vous avez évoqué également le dossier Conforama. Vous avez depuis plusieurs années maintenant développé cette spécialité qu'on pourrait qualifier, à vous de me dire si cette appellation vous va, mais de manager de crise. Est-ce que vous considérez que finalement pour restructurer, enfin qu'un chef d'entreprise ne peut pas restructurer sa propre entreprise, qu'il faut toujours l'intervention d'un tiers pour, alors pas forcément faire le sale boulot d'ailleurs, mais le boulot quand même qu'on n'a pas voulu faire avant, quoi.
En manager de crise, oui, ça va très bien, parce que généralement, on ne m'appelle pas quand ça va bien. C'est assez amusant d'ailleurs, il y a beaucoup de volontaires pour gérer les entreprises qui vont bien. Genre, gérer les entreprises qui vont mal, on est beaucoup moins nombreux sur les rangs. Est-ce qu'un chef d'entreprise peut restructurer sa propre entreprise? C'est très très rare. Ce sont vraiment deux mentalités différentes. Un chef d'entreprise de temps calme ou de croissance sera rarement adapté à gérer des crises. Pourquoi ? Parce que, et je le vois aujourd'hui, quand on est en crise, la première chose à faire, c'est de gérer le quotidien, c'est de gérer demain matin. Le temps long en restructuration, c'est 3 mois, c'est pas 3 ans. Donc, c'est pas on verra ça la semaine prochaine, sinon on verra ça maintenant. Hier, j'ai passé ma journée à faire le tour des bureaux pour rappeler aux gens que ce que je leur avais demandé de faire, c'était pas pour la semaine prochaine, c'était pour maintenant. Parce que c'est ça la clé, il faut aller vite. Le temps, c'est l'ennemi en restructuration. C'est vraiment le temps l'ennemi. Donc, je pense que ce sont deux façons différentes. En plus, il est très sain de faire venir un manager externe, un manager ou une équipe externe. Hein, il y a plusieurs méthodes. Pourquoi ? Parce qu'on a une vision complètement neuve et dépassionnée de l'entreprise. Je travaille avec un président actionnaire qui est dans son entreprise depuis 40 ans. Très difficile pour lui de concevoir la restructuration, même s'il y arrive intellectuellement, c'est très difficile pour lui de la mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'il m'a fait venir. C'est parce que moi, je ne connais pas les gens, j'ai un regard neuf, je n'ai pas d'a priori, je ne connais pas le secteur. Donc moi, je vais m'attacher aux fondamentaux, le cash, la gestion du temps. Qu'est-ce qu'on fait demain? Comment on restructure? C'est quoi la rentabilité? Comment est-ce qu'on remonte le chiffre d'affaires? Comment est-ce qu'on remonte la rentabilité? Comment est-ce qu'on gère les clients? Comment on gère le cash? Voilà. Donc c'est un métier complètement à part. Et c'est aussi pour ça que je reste pas une éternité dans une entreprise. Quand le job est fini, c'est toujours sain de laisser la place à d'autres gens qui, eux, vont gérer la nouvelle croissance, qui vont gérer le futur de cette entreprise. Parce qu'en plus, même implicitement, même si les gens vous aiment bien, vous êtes marqué. Voilà. Quand j'arrive dans une entreprise, généralement, les gens se précipitent sur LinkedIn. Quand j'arrive, je ne suis généralement pas accueilli par des fleurs et des acclamations. C'est plutôt des mines tristes, des yeux baissés en se disant « Mais pourquoi est-ce qu'il vient ? C'est si grave que ça. »
Eh bien, merci Cédric Dugardin d'être revenu pour m'aider sur la restructuration de Prestalis et sur le métier de manager de crise.
Merci Cyprien, c'est un plaisir. Thank you.